23 avril 2021, 11h49, heure française.
Endeavor launches once again. Four astronauts from three countries on Crew 2, now making their way to the one and only International Space Station.
Two Alpha.
Copy, Two Alpha.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Sonar, l'écho de l'histoire. Vous entendiez la séquence de décollage de la fusée Crew Dragon de SpaceX. À son bord, l'astronaute français Thomas Pesquet en compagnie des deux américains Robert Shane Kibruth et Megan McArthur, ainsi que le japonais Akihiko Hoshide. L'équipage s'est envolé avec succès vers l'ISS, la station spatiale internationale. À bord de l'ISS, Thomas Pesquet mène la mission Alpha, d'après Alpha Centauri, le système stellaire le plus proche de la Terre. Perpétuant ainsi la tradition française, qui consiste à baptiser les missions spatiales du nom d'une étoile ou d'une constellation. Au cours de sa mission, l'astronaute doit réaliser plusieurs expériences en micro-pesanteur, axées notamment sur le vieillissement cellulaire, ainsi que des projets étudiants retenus par le CNES. Thomas Pesquet est le premier astronaute français de l'histoire à passer aux commandes de l'ISS. Mais voilà, malgré cet événement, malgré l'aura de Thomas Pesquet, je dois bien avouer que je n'ai pas suivi le décollage depuis mon écran, ni écouté l'interview en direct de l'ISS. Mes préoccupations terrestres m'empêchaient de regarder vers les étoiles. Il faut dire qu'en France, notre programme spatial n'a jamais vraiment suscité l'engouement populaire. Considéré comme trop coûteux, voire inutile, il ne véhicule pas le même sentiment de fierté que la NASA chez les Américains. La présence de Thomas Pesquet dans l'espace et son rôle de commandant de l'ISS ne doit rien au hasard. À l'initiative du général de Gaulle et de quelques visionnaires, la France, au milieu des années 60, a su se hisser au rang des puissances spatiales, jusqu'à devenir un acteur à la pointe de la recherche et un partenaire incontournable de la coopération spatiale internationale. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment s'est forgé le programme spatial tricolore ou comment la France a fait de l'exploration spatiale un atout de sa politique internationale. Bienvenue dans la France dans les étoiles. Pour comprendre l'histoire du programme spatial français, il faut remonter à la création du CNES. Tout commence le 19 décembre 1961 sous la présidence du général de Gaulle. Le gouvernement Debray promulgue une loi instituant le Centre National d'Études Spatiales, le CNES, une structure chargée de centraliser l'ensemble des activités françaises liées à l'exploration de l'espace. Chargé de coordonner toutes les activités spatiales du pays, cet organisme visait principalement, dans le contexte de la guerre froide, à convaincre les Français, mais aussi les Européens, de ne pas se laisser distancer par les Américains et les Soviétiques, dans cette nouvelle course de l'espace. Cette initiative est avant tout un moyen pour la France de porter une troisième voie, dans un monde bipolaire. L'événement est de première importance. Il marque la volonté de faire de la France une puissance spatiale. Pour la première fois, le pouvoir politique incite tous les acteurs, scientifiques, militaires et industriels, à s'investir dans ce domaine en rejoignant le jeune organisme. Mais il a fallu pour cela vaincre bien des réticences. En effet, après 1945 et la capitulation de l'Allemagne nazie, l'esprit est à la reconstruction. Le gouvernement français refuse alors d'accorder des crédits à des programmes scientifiques considérés comme hasardeux. De plus, la communauté scientifique associe largement les fusées expérimentales aux missiles balistiques V2, l'arme destructrice du Troisième Reich. Ainsi, seuls les milieux militaires continuent à expérimenter la recherche balistique. Ils acceptent seulement une mission de veille technologique. Il faut attendre le milieu des années 1950 qu'une poignée de spécialistes scientifiques lance le projet de l'année géophysique internationale, ou AGI, dont les manifestations doivent se tenir en 1957 et 1958. Il s'agit d'explorer la haute atmosphère terrestre par tous les moyens, y compris la fusée. Personne n'ose alors parler de conquête de l'espace. L'initiative est plutôt comparée aux grandes expéditions polaires. Au lieu de prospecter la Terre à l'horizontale, on le fera à la verticale.
La Terre, saine dévolue à notre humain passage, aujourd'hui laboratoire de la plus grande aventure scientifique de tous les temps. L'année géophysique internationale poursuit l'étude de l'environnement de l'homme dans l'espace, étude menée par tous les savants de ce monde où nous vivons.
C'est ainsi que la France saute sur l'occasion de développer une fusée sonde version AGI. Elle s'appelle Véronique, une variante du missile V2, qui pouvait alors emporter une charge utile de 60 kg à 210 km d'altitude. La préparation du projet scientifique stimule puissamment la recherche. Dès juillet 1955, les États-Unis et l'URSS annoncent le lancement d'un satellite artificiel. Le ton est donné. Cet événement constitue le début de la conquête de l'espace. La guerre froide vient teinter de ses couleurs le projet AGI.
Et brusquement, on apprenait que le satellite russe avait commencé sa ronde extraordinaire. À 900 km d'altitude, il tournait à 28 800 km à l'heure autour du globe, abattant ses 640 000 km par 24 heures.
C'est la stupéfaction. Le 4 octobre 1957, l'URSS place sur orbite le premier satellite artificiel de l'histoire, Sputnik 1. C'est un choc dans le monde occidental, car si l'exploit technique et scientifique est salué dans le monde, les Américains voient le risque que le satellite civil soit transformé en station militaire capable de frapper par le feu nucléaire n'importe quelle cible sur la planète. Depuis 1947 et la déclaration du président américain Harry Truman, les États-Unis mènent une stratégie d'endiguement du communisme. L'ouverture d'un nouvel espace d'affrontement constitue une menace inédite. En France, les milieux politiques sont paralysés par la guerre d'Algérie et les crises gouvernementales qu'elle entraîne. En juin 1958, l'arrivée au pouvoir de De Gaulle redonne espoir à ceux qui croient en l'avenir de l'espace.
Je vous ai compris !
Le général Guérin propose la création du Haut Commissariat à l'espace. Toutefois, le pouvoir n'ose pas encore appuyer le projet, de crainte de heurter les autorités scientifiques toujours hostiles aux militaires. Mais en pleine guerre froide, la compétition américano-soviétique fait rage. Pas seulement dans le domaine militaire, la supériorité technique et technologique devient aussi un enjeu de prestige pour les deux géants. La Lune semble être le prochain objectif, et si la France souhaite participer à la course, il faut impérativement qu'elle s'en donne les moyens. Le général de Gaulle est enfin prêt à fonder un organisme chargé de coordonner l'ensemble des actions en direction de l'espace. Ce sera le CNES. La décision est prise au cours de l'été 1961, au moment même où les soviétiques envoient les premiers hommes dans l'espace. Gagarine en avril 61 et Titov en août. Le CNES démarre ses activités le 1er mars 1962. Il s'avère un outil de coordination efficace. En assurant la conduite des programmes, il permet de lancer, le 9 mai 1962, la commande d'un véhicule de 15 tonnes et de 19 mètres de haut, capable de placer sur orbite elliptique basse une charge utile de l'ordre de 80 kg. Ce géant d'acier répond au doux nom de fusée diamant, du nom du programme balistique Pierre Précieuse. Ce premier lance-satellite est de conception et de fabrication française. Diamant met sur orbite avec succès le premier satellite français A1, surnommé Astérix. 8 ans après le Spoutnik des Soviétiques et 7 ans après l'Explorer des Américains, la France devient la troisième puissance spatiale mondiale en prouvant sa capacité de satellisation. L'objectif fixé par le gouvernement 4 ans plus tôt est atteint. Diamant et A1 participent au rayonnement de la science et de la technique française. Démontrons au monde la capacité des ingénieurs, techniciens et scientifiques français à résoudre les difficultés techniques dans le cadre d'un grand projet faisant appel aux hautes technologies.
Madame, le satellite français a été placé sur son orbite. Quel effet cela vous fait-il ?
Moi, ça me fait plaisir parce que je vois que la France commence à se prononcer, quoi, disons.
La France est devenue la troisième puissance de l'espace.
Oui.
Qu'en pensez-vous?
Moi, je suis contente. Les Français ne seront pas toujours derrière. Voilà, c'est tout.
Si la population s'enorgueillit de son succès, peu de gens saisissent la portée de l'exploit scientifique et technique. En effet, la course spatiale ne s'arrête pas à l'envoi d'engins artificiels en orbite. De l'autre côté de l'Atlantique, les Américains préparent l'avenir. Comme le rappelle le discours du président John Fitzgerald Kennedy, le 12 septembre 1962.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
Le prochain objectif stratégique sera la Lune. Et pouvoir envoyer un astronaute dans l'espace constitue la première étape. Voilà un défi d'envergure pour la France. Dans cette catégorie, les Soviétiques éclipsent tous les autres. Depuis 1957, ils écrivent presque à eux seuls l'histoire spatiale. Le 3 novembre 1957, la chienne Laïka est le premier être vivant à franchir la haute atmosphère. Pour se hisser dans le cosmos, 2 mois seulement après le lancement du satellite Spoutnik. Le 23 avril 1961, c'est l'astronaute Yuri Gagarin qui effectue une orbite autour de la Terre. Le 16 juin 1963, c'est au tour de Valentina Tereshkova, première femme au monde, à effectuer un vol solitaire de 3 jours. L'objectif de l'URSS consiste à remporter la bataille idéologique à grand renfort d'exploits aérospatiaux.
Полет советского корабля «Восток-1» открыл не только новую веру в освоение космоса. Он явился вестником мира и доброжелательства народов нашей родины.
Cette voix, c'est Yuri Gagarin. Il prononce ce discours 4 jours après son vol, en décrivant ses impressions durant son décollage, et envoie un message fort au reste du monde. L'URSS compte bien dominer l'espace. La chienne Laïka, les astronautes Gagarin et Tereshkova. Mais connaissez-vous le français Hector? En 1962, Hector est le premier français à être allé dans l'espace. Un français un peu particulier, car Hector est un rat. Pas n'importe quel rat, un ratonaute. Pour accomplir sa mission, il est équipé d'une combinaison spéciale et doit affronter l'entraînement spatial avec notamment des séances de centrifugeuse. Accompagné de 6 autres rats, Hector est le premier être vivant du programme spatial français Vol Habité. Le 22 février 1962, Hector décolle à partir de la base algérienne d'Amaguir, alors territoire français. Il est placé en suspension dans l'habitacle de la fusée Véronique pour un vol qui doit atteindre l'espace en quelques minutes. Il s'envole à 110 km d'altitude pour atteindre la thermosphère. Ce voyage dure 8 minutes avant que la fusée n'entame sa descente. Il sera récupéré sain et sauf quelques heures plus tard au milieu du désert. La base d'Amaguir est le premier site de lancement de fusées depuis 1948. D'abord utilisé comme champ de tir par les militaires, puis prêté par ces derniers au CNES. Mais la France doit chercher un nouveau site pour développer ses engins de lancement. En effet, l'Algérie acquiert son indépendance en 1962. Et les accords d'Évian, signés cette année-là, prévoient la cessation d'activité dans le champ de tir saharien, et le retrait de la France en 1967. C'est le CNES qui est chargé de cette mission. Ses membres vont partir à la recherche de la future vitrine des succès aérospatiaux français. Un lieu capable d'accueillir une base de lancement. Les équipes vont parcourir le monde et relever pas moins de 14 sites possibles. En Inde, en Afrique ou encore en Australie, selon des critères très précis. La possibilité de lancement polaire et équatoriaux, la proximité avec l'équateur, des dimensions suffisantes pour assurer la sécurité des lancements, l'existence d'un port en eau profonde doté de moyens de manutention suffisants, l'existence d'un aérodrome capable d'accueillir un long courrier, une distance aussi réduite que possible entre la base de lancement et l'Europe, et la stabilité politique. En février 1964, le rapport de la Direction scientifique et technique du CNES établit un classement par points des différents sites retenus. Parmi les 5 lieux envisagés, c'est la Guyane française qui arrive largement en tête. Grâce à sa large ouverture sur l'océan Atlantique, le site de Kourou permet le lancement d'engins aussi bien vers l'est que vers le nord, avec un minimum de risque pour la population. La proximité avec l'équateur donne un avantage sur l'effet de fronde. Cet effet apporte un complément de vitesse au lanceur, qui nécessite par conséquent moins d'énergie pour décoller. En comparaison, le décollage des fusées depuis le cosmodrome de Baïkonour, en Russie, consomme 54% de carburant supplémentaire. Si on ajoute à cela la faible densité de la population, 45 000 habitants en 1964, sur un territoire de 83 000 km², une zone à l'abri des cyclones et des tremblements de terre, un climat supportable en dépit de sa position équatoriale, le site de Kourou apparaît comme un choix idéal. Le 21 mars 1964, à l'occasion d'une tournée aux Antilles, le général de Gaulle se rend à Cayenne. Sur la place des Palmistes, du haut d'une estrade, il prononce un discours face à une foule immense.
Nous avons à réaliser, vous, sur place, et la France avec vous, une grande œuvre française en Guyane. Et une grande œuvre dont on s'aperçoit dans toute la région du monde où se trouve le département. Il faut qu'on le voie et qu'on le sache partout. Nous avons commencé et nous continuerons.
Cette grande œuvre, c'est le Centre spatial guyanais. La population n'est pas encore au courant, mais Kourou constitue déjà un véritable pied-de-nez aux Américains. Bien que territoire français, la Guyane se trouve sur le continent sud-américain, chasse gardée des États-Unis. Ces derniers voient d'un mauvais œil la création d'installations spatiales concurrentes. Cela n'empêche pas les travaux de débuter en septembre 1965. Ce sont plus de 2500 personnes de 11 nationalités différentes qui y travaillent. Après 3 ans de travaux, le CSG inaugure son premier lancement le 9 avril 1968, avec la fusée Véronique. Suivront les années suivantes, lancement de 9 fusées Diamant. Ce projet titanesque a tout de même eu des conséquences sociales dramatiques. Les Guyanais locaux, des ruraux, fermiers et éleveurs des communes de Rainer et Malmanouri, furent expropriés pour cause d'utilité publique et réinstallés de force dans la cité du stade. Épreuve traumatisante, Julia Dufay-Chauchot, expropriée en 1965, se bat encore aujourd'hui pour faire connaître cette histoire oubliée.
Ce sont des faits qui ne sont pas portés à la connaissance du grand public guyanais, kouroussien. Et voilà ce que je reproche un petit peu. L'expropriation a été quelque chose de très difficile, assez sévère, traumatisant pour nous enfants. Moi j'avais 10 ans et ce que je reproche c'est qu'on n'en parle jamais. On fête tout, les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans du CSG d'Ariane, etc. Et on ne prend pas en compte l'humain. Et je pense que c'est le gros problème.
Qu'importe pour De Gaulle. Cette grande œuvre vaut bien ce sacrifice. Il réalise son souhait. La base de Kourou donne à la France les moyens de ses ambitions spatiales. Un emplacement idéal, des installations modernes et une large capacité de lancement qui lui permet de proposer Kourou comme future base de lancement à l'Agence spatiale européenne. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous venez d'écouter le premier épisode de Sonar. On espère que cela vous a plu. Un grand merci aux équipes de Radio Campus Amiens pour leur confiance et leur accompagnement. Retrouvez-nous une fois par mois sur 87.7 et en format podcast sur radiocampusamiens.fr. Et sur notre page Facebook, Sonar, l'écho de l'histoire.